Et donc bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, conflit en Afrique, une affaire d'ethnie. Plusieurs dizaines de civils ont à nouveau été tués au Mali en début de semaine dans le centre du pays. 38 morts selon le bilan du gouvernement malien. Des victimes qui viennent s'ajouter aux 35 enregistrées quelques jours plus tôt. Leur point commun, toutes appartiennent à la communauté Dogon. Cette précision paraît d'autant plus importante que le caractère ethnique des violences qui touchent le pays semble être un des éléments de compréhension. En mars, ce sont des Peuls qui ont été massacrés, quelques 160 personnes près de la frontière avec le Burkina Faso. Peul, Dogon, lorsque l'un est agressé, l'autre est considéré comme l'agresseur. Mais cette grille de lecture des événements est-elle vraiment satisfaisante? Le fait qu'elle soit souvent appliquée pour expliquer les conflits en Afrique ne veut pas dire qu'elle est pertinente. Non pas que les ethnies soient une pure création de l'esprit, mais elles ne forment qu'une partie d'un puzzle beaucoup plus complexe où les questions économiques, sociales, religieuses ont aussi leur place. Comme le dit le politologue Jean-François Bayard, privilégier la lecture tribale du conflit, c'est dénier à l'Afrique le statut de société politique et historique. Alors, conflit en Afrique, une affaire d'ethnie. C'est la discussion du soir en compagnie de trois invités. Claire Médard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes géographe chargée de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Vous êtes spécialiste du Kenya. Pour discuter avec vous, Coralie Pierret, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste indépendante, correspondante pour Radio France Internationale à Bamako, au Mali. Vous étiez auparavant en Guinée-Conakry. Vous êtes en France pour quelques mois. Désormais, puis notre troisième invité, il est au téléphone, il s'agit de Yann Gouet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et essayiste, vous avez publié cette année aux éditions Présence Africaine, vous avez dit retour, et je signale également une tribune que vous aviez signée dans Le Monde, c'était en mars 2018, qui a directement un lien avec notre sujet de ce soir. La détribalisation de nos sociétés doit être une priorité des gouvernements réformateurs en Afrique.
Que s'est-il passé dans ce petit village de Sobamda dans la nuit de dimanche à lundi? Près de 48 heures après la tuerie, des rescapés racontent ce qu'ils ont vu.
Ils ont tout de suite encerclé le village et tiré sur tout ce qui bougeait. Donc partout, les gens criaient, les enfants criaient. Tous ceux qui voulaient sortir et s'échapper, ils les achevaient.
Pendant des heures, ces hommes s'acharnent sur ce village Dogon d'environ 300 âmes.
Apparemment, c'est le même mode opératoire qu'à Ouagadougou le 23 mars dernier.
Ogassogou, un autre village de la région, Peul celui-ci, où quelques 160 personnes ont été décimées au mois de mars. Un massacre attribué à des chasseurs Dogon. Depuis 2015, et la naissance du groupe djihadiste du prédicateur Amadou Koufa qui recrute d'abord parmi les Peuls, les affrontements se multiplient. Le premier ministre malien Boubou Cissé s'est rendu ce mardi à Sobamda.
À la reportage diffusé sur TV5 Monde, c'était le 11 juin dernier. Coralie Pierret, alors c'est toujours évidemment compliqué quand il y a ce genre de violence de savoir exactement quels sont les ressorts, mais il est précisé dans les dépêches d'agence, dans les reportages, que les victimes sont des Dogons. Est-ce qu'on peut avoir la certitude que c'est parce que ce sont des Dogons qu'ils ont été visés par ces attaques? Donc il y a donc eu celle d'il y a 48 heures et puis celle d'il y a une semaine.
Alors ça, ce sont les événements les plus récents dans l'actualité, mais vous l'avez dit dans votre introduction, Ogassogou, c'était un village Peul où environ 160 personnes ont été assassinées. Donc il n'y a pas seulement des Dogons qui se font tuer ou seulement des Peuls qui se font tuer. Ici, on a des villages Peul qui sont attaqués et on a des villages Dogons qui sont attaqués aussi. Je pense que la question, justement, peut-on parler d'un conflit ethnique? C'est une question que, quand on est sur place, quand on est journaliste, évidemment, on se la pose quotidiennement. C'est un débat, voilà, qui anime un peu le milieu des journalistes sur place, parce que quand on parle de conflit ethnique, ce qui apparaît à tout le monde, ça fait évidemment penser au conflit du Rwanda. Donc c'est entre 500 000 et 1 million de morts en avril 94. Est-ce que ici, quand on parle de conflit ethnique, c'est la même chose? Je pense que les choses sont tout à fait différentes et que ici, les choses sont beaucoup plus complexes qu'un simple conflit entre une communauté Dogon et une communauté Peul.
J'ai omis de préciser que Yann Gwet, vous êtes justement à Kigali, au Rwanda. Vous êtes aussi journaliste comme Coralie Pierret. Est-ce que vous vous posez les mêmes questions sur la façon aussi peut-être de qualifier ces violences et d'identifier les victimes ou les agresseurs selon leur appartenance ethnique?
Alors, je ne me pose pas la question parce qu'en réalité, de mon point de vue, la question ethnique est relativement secondaire. Non pas qu'il n'existe pas de tribalisme de manière générale en Afrique, mais il me semble que dans les conflits dont on parle, et donc il me semble intéressant de relever qu'il ne concerne pas uniquement le Mali, mais qu'il concerne évidemment le Niger, et au-delà de la région Sahel, vous trouvez des conflits finalement sur une bonne partie du continent africain. Et en réalité, ces conflits, me semble-t-il, sont assez spécifiques. Si on se limite au Sahel, on peut faire une lecture plutôt singulière. Mais une fois qu'on sort du Sahel, si on se déplace au Nigeria, si on se déplace au Mozambique, par exemple, les logiques sont parfois différentes. Et il me semble que la lecture ethnique est insuffisante pour comprendre les dynamiques à l'œuvre. Moi, je suis plutôt partisan d'une lecture qui me semble un petit peu plus fondamentale et qui toucherait aux questions de gouvernance, aux questions de démographie, aux questions de changement climatique.
Est-ce que vous diriez, vous aussi, Claire Ménard, qu'on a peut-être tendance, quand on parle de conflits en Afrique, alors vous n'êtes pas spécialiste du Mali, vous avez travaillé en particulier sur le Kenya, mais à mettre beaucoup trop en avant, peut-être, cette dimension ethnique par rapport à d'autres causes qui pourraient expliquer ces conflits, que ce soit des causes politiques, des causes économiques, des causes sociales, religieuses, que sais-je encore?
Oui, j'aimerais essayer de lever l'incompréhension qui existe entre une position qui consiste à dire ce ne sont pas des conflits ethniques et un autre qui est effectivement d'observer qu'il existe une violence ethniquement ciblée et la manière dont cette violence ethniquement ciblée peut contribuer à faire penser que la violence et les conflits sont ethniques. Donc, c'est essayer de comprendre cette complexité pour dire qu'une fois qu'on a dit que c'était des conflits ethniques, on n'avait rien dit, en quelque sorte, ou bien on avait tout dit. Tout dépend de la manière dont on définit l'ethnicité. Si on se limite à une idée figée d'une ethnicité immuable, ancestrale, héritée, on n'a rien dit. On a simplement mis une étiquette et il est hors de question d'expliquer un conflit en mettant simplement une étiquette. En revanche, si on envisage l'ethnicité comme issue d'un processus historique, politique, est vraiment ancré dans l'histoire de société historique, à ce moment-là, on peut tout dire en disant que c'est un conflit ethnique. Voilà.
Mais est-ce que ça veut dire que selon la façon dont on va en parler, il va y avoir aussi peut-être des conséquences à la fois déjà sur ces conflits, c'est-à-dire il peut y avoir aussi un effet performatif, c'est-à-dire si vous dites que, alors je reprends le cas du Mali, si vous dites que ce sont des affrontements entre les Dogons et les Peuls, est-ce que ça peut avoir pour conséquence justement d'alimenter un véritable conflit inter-ethnique? Est-ce que ça déjà c'est quelque chose que vous avez peut-être pu observer justement il y a quelques années au Kenya?
Effectivement, cet effet performatif explique pourquoi je me refuse, moi, à expliquer le conflit en des termes ethniques. Dans la mesure où on contribue à l'alimenter, à, pas seulement le chercheur, mais également les journalistes, également les acteurs, et on le comprend dans le feu de la violence, qu'il y ait une sorte de peur également qui contribue à polariser en des termes ethniques des camps qui s'opposent. Mais on a absolument pas expliquer des racines. Alors je rejoins notre
Yann Gwet
au sujet de regarder davantage, essayer d'avoir des clés plus autour d'une approche politique et de la gouvernance. Voilà.
Et je vous vois approuver Coralie Pierre. Est-ce que ça voudrait dire, par exemple, qu'il faudrait ne pas mentionner le fait que les victimes alors de ces violences récentes au Mali sont soit des victimes Dogons, soit des victimes Peuls, et qu'il faudrait peut-être parler tout simplement de victimes maliennes, puisque tous sont maliens.
Je pense que il s'agit pas de gommer les appartenances culturelles ou communautaires. Je pense que il faut juste pas simplifier les choses et ramener les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, au Mali, qui qualifie le conflit d'ethnique ? Ce sont ceux qui ont intérêt à le qualifier d'ethnique, à mon sens.
C'est-à-dire
Les groupes djihadistes qui sont présents dans le centre du Mali. On a un prédicateur qui est le leader, enfin l'un des leaders djihadistes maliens qui s'appelle Amadou Koufa, qui lui, dans ses dernières vidéos de propagande, avait un discours plutôt s'appuyait en tout cas sur son appartenance communautaire pour recruter. Donc ils ont intérêt à se revendiquer comme, en l'occurrence, c'est en Peul, pour pouvoir recruter. On a donc ces groupes djihadistes. On a aussi au Mali des groupes d'autodéfense communautaire. Encore une fois, eux qualifient le conflit ethnique parce que ces groupes d'autodéfense communautaire, finalement, se basent sur l'ethnie et leur existence même est justifiée par le fait de qualifier le conflit ethnique. Et puis, on a aussi les groupes qui sont non armés, qui sont plutôt de la société civile. On a des groupes plutôt de communautaires Peul ou communauté Dogon, et là encore une fois leur rôle c'est de mettre en avant leur communauté, de défendre leur communauté, donc eux aussi qualifient le conflit d'ethnique. Donc ceux qui ont intérêt à qualifier le conflit d'ethnique le qualifient d'ethnique.
Alors on voit qu'il y a beaucoup finalement de gens qui ont intérêt quand même à mettre en avant, sans forcément en faire l'élément d'explication essentiel et le plus important, mais en tout cas à le mettre parmi les causes qui expliquent ces conflits, Yann Gouet. C'est pas seulement une lecture médiatique, disons, c'est aussi quelque chose qui, à l'intérieur des pays, peut être instrumentalisé ou peut être intériorisé, par exemple, par les victimes.
Oui, bien sûr que les victimes, effectivement, peuvent intérioriser ce discours, d'autant plus qu'effectivement, dans le cas du Mali, par exemple, si on refait rapidement la généalogie de ce conflit, on se rend compte que dès le début, dès les années 2012, quand il y a eu l'offensive djihadiste, et un petit peu après en 2015, quand l'armée du Mali justement est allée à l'assaut des groupes djihadistes, elle s'est servie des chasseurs appartenant à la communauté Dogon. Donc effectivement, dès ce moment-là, effectivement, on se rend compte que le contexte a pu probablement permettre, après une confrontation, qui effectivement a été présentée par la suite comme étant ethnique. Mais je pense qu'effectivement, si on injecte un peu de complexité dans l'histoire et qu'on rappelle effectivement, qu'on remet les choses dans leur contexte et qu'on rappelle la généalogie des choses et notamment le rôle, par exemple, de l'armée malienne, y compris d'ailleurs la crise de légitimité dans nombre de nos pays africains, les bavures de l'armée malienne, etc. L'utilisation de milices à des fins de sécurisation, ce qui souligne également la faiblesse des États qui sont incapables par eux-mêmes d'assurer la sécurité de son ensemble de territoire et donc ils font appel à des relais dans les communautés. Tout cela explique finalement une situation qui devient explosive et qui en effet ouvre la voie à des interprétations ethniques.
Mais est-ce que par exemple, il pourrait vous sembler plus juste, Yann Gouet, de parler, alors en l'occurrence s'agissant du Mali et des victimes de ces violences, de parler avant tout de victimes maliennes, de groupes terroristes ou de groupes criminels, plutôt que d'évoquer leur appartenance soit à la communauté Dogon, soit à la communauté Peul. Est-ce que vous considérez, vous comme journaliste, qu'il manquerait un élément d'information si on ne mentionnait pas leur appartenance ethnique ?
Non, je pense qu'effectivement ça a été relevé tout à l'heure. Je pense qu'il ne sert à rien de gommer effectivement les appartenances communautaires. On peut tout à fait pour expliquer, y compris sur le plan local, la dynamique des conflits, on peut tout à fait effectivement nommer les communautés sans pour autant céder à une lecture qui soit purement ethnique. Moi, je trouve tout à fait intéressant quand je m'intéresse à ces questions de savoir quelles sont les communautés en guillemets en présence. Et dans le même temps, je pense qu'il est utile de sortir de cette ou d'éviter le piège effectivement d'une lecture uniquement ethnique. Et puis d'aller au-delà. Mais je pense que les deux sont compatibles, si vous voulez, et même nécessaires.
C'est quelque chose qui est important du point de vue des victimes, Claire Médard, de pouvoir se rattacher justement à une appartenance ethnique. Alors là, on sort de la seule question malienne, mais justement pour pouvoir expliquer les raisons qui font qu'elles sont des cibles de ces violences.
Non, je pense pas. De la part, alors, quand il y a dans le cas du Kenya que j'ai étudié, l'interprétation ethnique, elle se fait sous le feu et les échanges et la retransmission médiatique, où effectivement il y a un engrenage de violence qui fait qu'on tire les choses dans ces termes-là lorsqu'on les décrit. Mais par la suite, ou dans un autre moment, il y a des analyses et des perceptions qui sont extrêmement politiques sur la captation d'un régime par une élite, sur, et hélas, elle se traduit peut-être en des termes ethniques dans un conflit, dans des mobilisations qui sont politiques sous cette forme et qui mettent l'accent sous cette forme de ralliement ethnique. Mais par exemple, l'accaparement foncier au Kenya, dans un terme, enfin d'une façon vernaculaire, c'est une accusation par rapport à une élite au pouvoir qui a accès à des ressources institutionnelles et qui, par là, peut accaparer la terre. Donc là, il y a un sentiment aigu de l'injustice et de la manière dont l'État est créateur d'inégalités. Et c'est aussi exprimé par donc tout dépend évidemment du moment, des enjeux, mais les deux existent.
Alors justement, là, cette question de l'accaparement foncier me paraît très intéressante aussi, là encore pour revenir à ce qui se passe au Mali, Coralie Pierret. C'est-à-dire, est-ce que finalement cette instrumentalisation que vous décriviez tout à l'heure par les mouvements djihadistes de ces appartenances ethniques, elle n'est pas d'autant plus facile qu'elle vise aussi des populations qui peuvent se sentir un petit peu délaissées, chez qui il y a un ressentiment, qui considèrent qu'elles sont un peu les oubliées de la communauté nationale parce qu'on n'a pas voulu les favoriser de la même manière que d'autres communautés.
Alors instrumentalisation, pour juste rebondir sur votre question, instrumentalisation des groupes djihadistes, mais pas seulement. On a aussi des groupes d'autodéfense communautaire où on a à la fois des Peuls et des Dogons. Ce n'est pas uniquement les groupes djihadistes qui instrumentalisent les choses. Évidemment, la question du foncier, dans ce cas précis de conflit entre Peuls et Dogons, la question du foncier est centrale, puisque, alors, si on devait schématiser, on a d'un côté des Peuls qui sont plutôt des éleveurs traditionnellement, des Dogons qui sont plutôt des cultivateurs. Donc, on a historiquement...
Des éleveurs par ailleurs nomades. Enfin, c'est comme ça qu'ils sont présentés très souvent.
Qui se sont sédentarisés dans le centre du Mali, mais qui l'étaient peut-être avant. Donc la question du foncier, il pouvait y avoir auparavant des conflits autour de terres liés à ces rôles que j'ai décrits à l'instant. Mais pendant des décennies, voire des siècles, ces conflits étaient réglés de manière tout à fait traditionnelle, avec des autorités traditionnelles qui, d'un côté ou de l'autre, géraient les choses dans la paix, tout simplement. Et puis, on a aussi, bien sûr, un État au Mali, dans cette zone particulièrement, qui est quasiment absent. Donc, ça explique aussi pourquoi ce sont ces autorités traditionnelles qui géraient ces conflits fonciers. Il y a aussi, si on prend l'explication historique de ce conflit Peul et Dogon, on a le foncier, mais on a aussi la raréfaction des ressources. Et Yann Gouet le rappelait tout à l'heure, on a la question climatique qui est importante et qui peut-être, explique aussi ces tensions qui peut y avoir aujourd'hui entre ces communautés.
Yann Gouet, les frustrations sociales, ça peut être des éléments qui vont favoriser l'ethnicisation de ces conflits, en tout cas l'utilisation des appartenances ethniques pour mobiliser peut-être certaines de ces communautés, comme on le voit par exemple aujourd'hui au Mali.
Oui, et c'est en cela, me semble-t-il, que la crise au Mali est une crise finalement qui n'est pas que malienne, parce que vous retrouvez finalement les mêmes enjeux sous des formes marginalement différentes ailleurs. En Afrique, vous les retrouvez au Nigeria, même au Cameroun, et puis ailleurs. C'est-à-dire que vous avez à la base souvent une crise de légitimité, et c'est là que la question ethnique finalement peut, à mon avis, être féconde. C'est que souvent parce que les gouvernements ont une logique ethnique, Celle-ci finit par avoir pour conséquence que ces pouvoirs manquent fondamentalement de légitimité. Et donc vous avez des communautés entières qui se sentent marginalisées et qui sont souvent de fait marginalisées. Et quand vous ajoutez à cela effectivement la combinaison d'enjeux comme de défis comme effectivement la question climatique est extrêmement importante, notamment dans les zones rurales, que vous ajoutez à ça toujours en particulier dans les mêmes zones rurales une démocratie qui est souvent importante, alors tout ça plus effectivement une gouvernance qui elle-même laisse à désirer, vous avez un cocktail explosif qui effectivement se voit en l'occurrence au Mali et au Niger, mais qui, je vous dis, se voit dans de très très nombreuses zones du continent.
C'est ce que vous avez pu observer justement au Kenya, Claire Médard?
Ce que j'aimerais dire, c'est que je ne souhaite pas que l'explication par le conflit autour des ressources remplace l'explication par l'ethnicité, en quelque sorte. Ce que je cherchais à faire comprendre, c'était davantage des enjeux politiques de contrôle d'un appareil d'État. Donc, à la fois, la force de la dimension idéologique autour de ces questions d'appartenance ethnique et la manière dont ça légitime la violence, mais aussi, c'est le cas pour le Kenya en tout cas, l'importance de rapporter ce processus idéologique à des logiques de pouvoir, mais vraiment par rapport à l'État. Même si on parle d'ethnicité, on est dans un rapport à l'État.
Mais vous voyez quoi ? C'est-à-dire, c'est parce que l'État certains États sont peut-être trop faibles, manquent de légitimité, qu'il y a cette tentation justement d'instrumentaliser c'est une façon pour ceux qui les dirigent de se maintenir au pouvoir, c'est-à-dire de jouer aussi sur une forme de clientèle électorale qui, en l'occurrence, est la clientèle de ceux qui appartiennent à la même communauté que ceux qui dirigent le pays.
Oui, c'est en fait souligner le paradoxe de cet État qui peut paraître faible, mais qui en même temps est un enjeu de contrôle pour la classe, enfin pour les gens qui cherchent à contrôler à avoir une action économique également. Il faut passer par l'État. Du coup, ce sont des États qui sont peut-être pas qui représentent un fort enjeu pour accéder à l'économique en quelque sorte.
Je voudrais vous lire un extrait d'un article qui est paru, alors ça date déjà, c'était en 2007 dans la revue Relations par le chercheur Olivier Mbodo, violence ethnique en Afrique. Et il y a notamment cette phrase, vous allez me dire ce que vous en pensez Claire Médard et Yann Gouette. Si le pouvoir colonial a instrumentalisé l'ethnicité à des fins impropres, l'État postcolonial a poursuivi sur le même registre. Ce n'est pas un État au vrai sens du terme, il est régi par la politique du ventre où ceux qui ont accès aux ressources nationales se préoccupent tout d'abord de prendre soin des leurs, donc d'où des politiques clientélistes en faveur en général des gens qui appartiennent à la même ethnie que par exemple le chef de l'État, Claire Médard.
Alors, il y a ce volet clientéliste, effectivement, sur lequel on peut insister. Donc, dans des mobilisations politiques pour être réélu, et en particulier, des redistributions de terres, d'une certaine manière, pour avoir un soutien politique, ça c'est ce qu'on voit au Kenya. Mais dans le même temps, il y a aussi des logiques d'accumulation qui sont propres à cette élite et à cette capacité de chevauchement entre un secteur, entre une position de pouvoir et le secteur privé économique.
Yann Gouette?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'effectivement, la question, si vous voulez, que je trouve intéressante à se poser également, c'est pourquoi est-ce qu'on a cette prolifération de conflits en ce moment? Parce que finalement, le constat qui a été dressé par le chercheur dont vous avez lu un extrait, du rapport, effectivement, c'est une réalité qui existe et qui est connue depuis longtemps. Mais pourquoi est-ce qu'on a, en ce moment précis, cette conflagration dans de nombreuses zones en Afrique? Et c'est là que je pense qu'il faut revenir à des questions que je me permets de ressouligner parce qu'elles me semblent importantes. Dans un pays comme le Niger, c'est un pays où vous avez à peu près un taux de natalité de 6 à 7 enfants par femme, généralement dans les zones rurales. Quand vous ajoutez à ça la raréfaction des ressources, justement du réchauffement climatique, vous avez des lacs qui disparaissent. C'est le cas notamment au Nigeria et même dans certaines parties effectivement du Mali, du Niger, etc. Donc des ressources qui s'enrichissent. Vous avez une terre qui est de moins en moins fertile et que vous avez en plus de ça une corruption au cœur des États qui fait que les ressources ne sont de fait pas disponibles parce qu'elles sont dilapidées. Vous avez encore une fois là un cocktail qui est absolument explosif et qui, de mon point de vue, explique au moins en partie pourquoi on a une réalité qui est aussi difficile en ce moment.
Vous évoquiez tout à l'heure, Coralie Pierret, je voudrais qu'on y revienne un instant, l'impact qu'a pu avoir le génocide rwandais, c'était en 1994, aussi peut-être sur la lecture qu'on peut avoir aujourd'hui de ces conflits qui ont lieu en Afrique. Est-ce que, par exemple, s'agissant du Mali et cette idée de dire, par exemple, je vois le président malien Ibrahim Boubacar Keïta qui a répété hein, qu'il s'agissait c'est absolument pas d'un conflit interethnique, c'est-à-dire est-ce qu'il y a aussi peut-être la peur que cela dégénère comme ça a pu se passer au Rwanda, ou en tout cas, est-ce que par rapport peut-être notamment aux rédactions avec lesquelles vous travaillez, vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui est encore très présent dans la lecture qu'on peut avoir des conflits en Afrique?
C'est quelque chose qui, à mon sens, est présent dans l'imaginaire collectif. Je m'interrogeais surtout sur le rôle du journaliste le rôle du journaliste ou du média ou des médias dans le traitement de cette actualité. Est-ce que quand on simplifie réellement les choses et qu'on fait un journal et qu'on a une minute pour faire un papier, est-ce que si on parle uniquement de conflits ethniques sans expliquer toute la complexité, la profondeur historique, politique, etc., sociale, est-ce qu'on ne simplifie pas justement ces choses-là? Et c'est, à mon sens, un danger. C'était en cela que je m'interrogeais sur la question du rôle du journaliste et comment qualifier ces conflits.
Et en tout cas, est-ce que symboliquement, alors je repose la question à Yann Gouette et à Claire Ménard. Yann Gouette, est-ce que c'est quelque chose qui vous semble aussi peser dans ce qui s'est passé au Rwanda en 94, peser dans la façon dont aujourd'hui on va analyser et on va expliquer les différents conflits qui peuvent exister sur le continent africain?
Ben, j'avoue que je suis un peu perplexe parce que moi j'ai le sentiment que d'ailleurs j'ai pas vu de beaucoup de références au Rwanda, et d'ailleurs ça me paraît assez sain parce que le mon point de vue il y a peu de rapport, si vous voulez, entre la situation au Rwanda et ce qui se passe en tout cas pour l'instant au Mali. Notamment une des différences fondamentales c'est le rôle de l'État. C'est que dans un génocide comme le Rwanda, l'État a eu un rôle absolument central. Et même si on peut reprocher beaucoup de choses, évidemment, à l'État malien, à des États en Afrique, je ne pense pas qu'on ait à la tête de l'État malien, un régime, entre guillemets, génocidaire, en tout cas une idéologie génocidaire.
Je ne voyais pas du tout, alors, que ma question ne soit pas ambiguë, disons, hein, c'est-à-dire, moi, je faisais pas du tout une comparaison entre, évidemment, deux situations politiques qui n'ont strictement rien à voir, mais c'était plutôt dans la façon aujourd'hui de percevoir justement ces conflits en Afrique, le fait peut-être de mettre en avant de manière aussi fréquente l'appartenance ethnique. La question que je me posais, voilà, c'était est-ce que ça ne vient pas aussi de ce traumatisme au Rwanda et de la peur qu'une situation puisse se répéter de la même manière? C'était un peu ça le sens de ma question, Yann Gouette.
D'accord. Non, je pense que ça doit forcément jouer dans l'esprit effectivement de certains commentateurs ou journalistes. Néanmoins, je me permets de rappeler quand même que la lecture ethnique dans le journalisme ou le commentaire de manière générale sur l'Afrique évidemment préexiste à la situation au Rwanda. Ça fait depuis toujours. Vous avez dans les commentaires, dans les reportages sur l'Afrique, vous avez effectivement la lecture ethnique qui est utilisée. Donc autant effectivement je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est quand même récent le Rwanda, et donc ça joue forcément quand il y a quand il y a des tueries qui effectivement vu de loin apparaissent effectivement comme étant ethniques, ça doit forcément jouer. Mais à mon avis, il y a pas que ça. Il y a vraiment également une insuffisance, en tout cas chez certains, pas chez tout le monde, mais chez certains, il y a une insuffisance de connaissances, de volonté d'aller au-delà effectivement de cette lecture.
Je voudrais reciter la phrase que j'évoquais en tout début d'émission du politologue Jean-François Bayard. Privilégier la lecture tribale du conflit, c'est dénier à l'Afrique le statut de société politique et historique. Est-ce que c'est un point de vue, une analyse que vous partagez, vous, Claire Ménard?
Oui, tout à fait. Je voulais rebondir sur la question par rapport au Rwanda en parlant du Kenya qui se trouve dans la chronologie les violences électorales. Moi, je préférais en fait qu'on parle de violences électorales dans ce cas-là. En 2008, se situe donc après le génocide Rwanda. Et du coup, il y a une mobilisation assez forte, y compris la mise en place d'un tribunal pour essayer de juger des hauts responsables. Donc, en fait, ce que je voulais souligner, c'était simplement que le discours de haine est inacceptable à l'heure actuelle dans la presse kényane. On fait la traque à chaque élection et le moindre politicien qui va tenir des propos xénophobes ou racistes par rapport à un autre groupe, il va devoir faire face au tribunal en quelque sorte. Donc il y a quand même des mesures qui ont été prises et qui sont vraiment une réaction au traumatisme de 2008 au Kenya, mais aussi d'autres traumatismes ailleurs en Afrique.
Peut-être d'ailleurs faut-il redire un mot de ce qu'a été ce traumatisme de 2008 au Kenya, parce qu'on ne s'en revient pas forcément.
Oui, c'est il faut voir une sorte de chronologie de violence à la suite d'une dénonciation de fraude électorale, avec une histoire, c'est vrai, d'une revendication d'un groupe qui était le groupe du président qui précédait sur une région, et du coup un dispositif idéologique qui était prêt à se mettre en place pour que la violence s'enclenche. Et ensuite, par effet boule de neige, se diffuse à d'autres régions et le rôle de la diffusion médiatisée et de la couverture télévisée était important.
Ça, c'est le petit bruit de micro, mais c'est pas grave, allez-y, continuez. Très précise pour les auditeurs.
Très importante pour comprendre l'engrenage de la violence. Et ensuite, une médiation et donc les dirigeants, les sont vraiment en cause dans l'organisation de la violence. Les dirigeants politiques, à la fois installés au pouvoir et opposants.
Les dirigeants au Mali aujourd'hui, Coralie Pierret, ils sont remis en cause. Enfin, c'est-à-dire, est-ce que la faiblesse de l'État est un des arguments qui est peut-être avancé justement dans ce conflit? Enfin, je ne sais pas d'ailleurs comment il faut appeler, comment il faut caractériser la situation que connaît ce pays aujourd'hui. C'est très compliqué là aussi.
C'est toute la question. L'État, oui, bien sûr, est questionné sur ce qui se passe au Mali. Encore une fois, je pense que dans cette zone spécifique, ce que j'ai rappelé tout à l'heure, c'est que il y a une absence de l'État, des structures étatiques. Et quand l'État était ou est présent, il y avait aussi des problèmes de gouvernance, une corruption assez large, etc. Donc ça fait des années que cet État est soit absent, soit remis en question. Aujourd'hui, la réaction des autorités maliennes est aussi questionnée par les partis d'opposition, mais pas seulement. Voilà.
Yann Gouet, je voudrais, pour terminer, puisqu'on est déjà presque au terme de cette émission, revenir donc sur cette tribune que j'évoquais, que vous avez publiée l'an dernier, c'était en mars 2018 dans Le Monde, sur la nécessaire détribalisation de l'Afrique, dans laquelle la tribune, vous écriviez notamment ceci: il faudra éliminer la tribu pour en finir avec le tribalisme, et parce que la tribu est un héritage colonial, sa suppression passera nécessairement par le démantèlement d'États coloniaux. J'aimerais que vous m'expliquiez un petit peu cette phrase.
Oui, bah effectivement, si on remonte dans la généalogie, enfin, de l'histoire coloniale en Afrique, effectivement, on se rend compte très clairement que la notion de... Alors, des communautés, des identités communautaires, évidemment, ont toujours existé en Afrique comme ailleurs. Maintenant, la politisation, si vous voulez, de ces communautés, de ces identités en particulier, qui est devenue ce qu'on appelle les communautés tribales, les tribus, est effectivement un héritage colonial. Je parle du processus de politisation de ces identités. Et le tribalisme, finalement, part de là. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, j'estime qu'il, si jamais l'idée de créer des États-nations, enfin des nations en Afrique, dans différents pays d'Afrique, passera nécessairement, effectivement, par un débat et au-delà sur effectivement la question de l'identité, ce que signifie être je sais pas moi camerounais, malien, nigérian, etc. Versus des identités tribales versus identité nationale, si vous voulez.
Mais est-ce que ça, pardonnez-moi Yann Gouette, c'est quelque chose qui existe déjà, un ou des États-nations en Afrique? Est-ce que ça fait partie du projet de projet politique réel aujourd'hui, ou bien est-ce que ça c'est juste une hypothèse que vous émettez?
Écoutez, malheureusement, au niveau des pouvoirs, des partis politiques dans les différents pays, malheureusement, la question de la nation, disons, existe assez peu. Il y a des pays comme Rwanda, mais je pense aussi, suite à son histoire, effectivement, a très très bien compris le danger qu'il y a effectivement à manipuler des identités ethniques et par opposition à construire vraiment une identité nationale et donc faire émerger un sentiment d'appartenance à une nation, mais hormis des pays comme le Rwanda ou quelques autres qui en raison de leur histoire, effectivement, ont pris une trajectoire différente, pour l'instant, malheureusement, dans trop de pays africains, la question de la nation n'est pas posée telle quelle, peut-être pour la raison qui a été évoquée, qui est qu'effectivement, il y a un gain politique important, encore à faire jouer la fibre ethnique. Donc, il faut simplement espérer que dans les nouvelles générations, qui elle me semble un peu plus sensible à la question effectivement de la nation du nom au sens large, émergeront des leaders qui seront imposés ce débat dans le débat public africain.
Vous en pensez quoi, Claire Ménard?
Simplement, pour moi, je considère qu'il y a des logiques ethniques et locales qui sont très proches de logiques nationalistes. Ce qu'on a parlé de patriotisme local. Dans le processus colonial, on voit bien comment ces ethnies sont également sont issues d'un processus qui est très similaire à des formes de... C'est des créations et c'est des revendications nationales à une autre échelle. Il n'y a pas de question de hiérarchiser nationalisme et revendications ethniques locales. Les deux sont des dynamiques idéologiques qui sont superposés et qui se construisent dans le temps.
Mais l'appartenance à une communauté nationale ne transcende pas, non, ou n'a pas vocation à transcender justement
absolument
ces appartenances
pas.
Locales.
Il faut comprendre une superposition et un jeu sur des identités qui sont superposées et à géométrie variable.
Au Mali, on est d'abord, par rapport à vos observations, Coralie Pierret, on est d'abord malien, on est d'abord membre d'une communauté, Peul, Dogon, Bambara, ou bien est-ce que ce sont, comme le dit finalement Claire Ménard, des appartenances qui sont, mises un peu au même plan, quoi. Il n'y en a pas une forcément qui prime sur l'autre.
Alors, seul un malien pourrait répondre à cette question. Je suis pas malienne et je pourrais pas répondre à cette question avec précision. Ce qui est sûr, c'est que rapidement, parce qu'il y a des différences de langue entre des Peuls, des Bambara, des Bozo, etc., on a des différences de langue, des différences de coutumes, parfois des différences de religion aussi. Donc, rapidement, on comprend assez rapidement que telle personne appartient à telle communauté, etc. Mais il y a quand même, en tout cas dans le sud du pays, cette idée de Mali, dans le sud du pays.
Bon, ben en tout cas, merci à tous les trois, Coralie Pierret, Claire Ménard et Yann Gouette, d'avoir participé à cette discussion que vous pourrez retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page du Grain à Moudre.